archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Exubérant, prédicateur inspiré, agitant sa soutane rose pour haranguer la foule, pour la chauffer du balcon de l'hôtel de ville, pour présenter la vedette du siècle, a-t-il dit, Nelson Mandela.
Voici venu le jour que nous avons attendu depuis plus de 300 ans. Voici venu le jour de la libération pour chacun d'entre nous, les Blancs et les Noirs, ensemble.
Pendant ce temps, Frédéric de Clercq discrètement saluait la foule et se retirait dignement sous les goodbyes ironiques de l'assistance.
3 ans seulement après sa libération, Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud. Malgré les embûches, les complots pour empêcher la tenue des premières élections libres, multiraciales, sur le principe d'un homme, une voix, les violences et les crimes qui ont émaillé la campagne, tout s'est finalement bien déroulé. Et l'ANC les a largement remportés. Ce 10 mai 1994, l'Afrique du Sud, que dis-je, le monde entier, retient son souffle. Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier politique du monde, qui a passé 27 ans de sa vie derrière les barreaux, s'apprête à prêter serment devant ceux qui l'ont embastillé, mais également les théoriciens de l'apartheid. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Nelson Mandela. Après avoir été institué président la veille au Cap, Nelson Mandela doit cette fois-ci prêter serment à Pretoria devant des chefs d'État, des dignitaires, des célébrités venues du monde entier. Ils sont tous là à cette tribune, tout ce que le monde compte de personnalités. Lui est là, avec à ses côtés sa fille Zenani. Winnie, qui ne partage plus sa vie, est placée un peu plus en retrait. Mais les caméras la trouvent facilement. Jessie Duarte, l'une des assistantes de Nelson Mandela.
Ce jour-là, j'étais de tout cœur avec Winnie. Elle était à l'investiture, mais à l'écart du groupe principal. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, et elle y assistait comme une étrangère. On avait discuté de la possibilité de l'intégrer au moins au groupe principal, mais il avait refusé. C'était sa décision.
Evelyn, la première épouse de Nelson Mandela, n'a pas été conviée à cette cérémonie d'investiture. Elle n'a d'ailleurs pas voté. Son fils, Magato, aussi est absent. Mais l'heure est solennelle, le moment unique. À cet instant, Nelson Mandela appartient à toute l'Afrique du Sud. George Bizos, son ami et avocat pendant toute cette période.
Je regardais la cérémonie et tout cela me paraissait tout de même un peu bizarre. Il y avait le chef des armées, le chef de la police. L'homme qui avait persécuté Winnie à Brandfort, le général Van der Merwijve, était près du président et Winnie juste à côté.
Ahmed Kathrada, ami, co-détenu et compagnon de lutte de Mandela, membre exécutif de l'ANC.
Qui allait faire prêter serment à Monsieur Mandela? Même si le juge suprême était un blanc qui avait siégé sous l'apartheid, nous avons décidé que c'était lui, le juge Corbett, qui devait lui faire prêter serment. C'était un symbole de réconciliation très fort pour tout le peuple sud-africain. C'était une façon de dire « laissons le passé derrière nous ». Et moi qui ai toujours été communiste, quand j'ai vu Mandela se lever et prêter serment, la main sur le cœur devant le juge Corbett, moi, j'ai fait ça.
I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful.
Moi, Nelson Rolihlahla Mandela, je jure de me consacrer au bien-être de la République et de tout son peuple.
Pouvez-vous lever, s'il vous plaît, votre main droite et dire que Dieu me vienne en aide.
Que Dieu me vienne en aide.
Aussitôt ce serment magique prononcé, des avions tracent dans le ciel d'automne des traînées de fumée de couleur du nouveau drapeau national, noir, vert, rouge, bleu et jaune d'or. Des hélicoptères avec des drapeaux ornant leurs trains d'atterrissage vrombissent au-dessus des bâtiments de l'Union qui étaient pendant trop longtemps le siège de la suprématie blanche. Ahmed Kathrada, membre exécutif de l'ANC, ancien détenu de Robben Island.
Ensuite, il y a eu le défilé de l'armée de l'air sud-africaine. C'était une armée entièrement blanche qui avait tué et mutilé beaucoup de gens dans d'autres régions de l'Afrique. Elle avait fait des raids sur le camp de réfugiés de Kasinga, en Angola, et massacré des hommes, des femmes et des enfants sans défense, en Namibie. Et néanmoins, ce jour-là, nous avons entendu le vrombissement des moteurs de cette même armée. Et nous avons vu les avions et des hélicoptères en formation, tous arborant le drapeau, passer en revue devant le nouveau président, un président noir.
À la tête de l'État donc, Nelson Mandela. Il est accompagné de deux adjoints. Le premier est Thabo Mbeki, récemment élu à la direction de l'ANC, personnage très populaire auprès des militants. Le second, Frédéric de Klerk, avec qui il faut désormais composer. Les relations semblent s'améliorer. Mandela a nommé comme ministre des Transports, tout un symbole, un ancien prisonnier de Robben Island, celui-là même qui a sorti clandestinement de prison sa biographie et l'a transporté en Zambie. Marc Maharaj, le transporteur comme on l'appelle. C'est ce qu'il dira d'ailleurs lorsqu'il le nomme ministre des Transports en disant... voilà.
That's why I became minister of transport.
We had a government of coalition.
Nous avions un gouvernement de coalition. C'était la transition d'un régime d'apartheid durant lequel une minorité blanche dirigeait le pays vers une démocratie. Ce gouvernement comprenait le précédent parti de gouvernement, le Parti National, et le parti Inkatha de la Liberté, mené par le chef Boutelesi. C'était donc un gouvernement de coalition qui était nécessaire. Et de fait, Mandela devait gérer les différentes tendances en gardant bien en vue un seul objectif, le maintien d'un équilibre démocratique.
Mais réaliser cette alchimie, cette entente avec autant de diversité et de passif est une équation compliqué pour Mandela. Comment gérer les relations difficiles avec Frédéric de Klerk, son vice-président? Comment composer avec l'intenable Mangosuthu Buthelezi, le ministre de l'Intérieur? Lorsqu'il arrive à la présidence pour prendre ses fonctions, le personnel blanc, la sécurité et autres services, apeurés, ont choisi de se sauver. Ils s'interrogent de savoir où ils sont tous passés. En fait, ils ont pris la clé des champs. Mandela va les rassurer. Il va leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais que son objectif, c'est la réconciliation. Zelda Lagrange, la célèbre et puissante secrétaire de Nelson Mandela.
Absolument. Et particulièrement pour les gens de l'ancien régime, de l'apartheid. Les gens avaient peur parce qu'ils pensaient que, maintenant que l'ANC était au pouvoir, ils allaient vouloir se venger des injustices perpétuées contre eux sous l'apartheid. C'était une période d'incertitude pour la population blanche, et plus particulièrement afrikaner en Afrique du Sud. Et c'est là toute la grandeur de Nelson Mandela. Il a fait exactement l'inverse. Il a tendu la main à ses anciens ennemis et les a embrassés. Par la suite, je l'ai entendu dire, si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, il faut vouloir travailler avec lui, parce qu'alors, il n'est plus votre ennemi, mais votre allié. Et c'est exactement ce qu'il a fait.
Mandela va s'employer à séduire cet entourage blanc qui redoutait son arrivée. Il va même aller rendre visite à Betty Verwoerd, la veuve du théoricien de l'apartheid.
En Afrique du Sud, drôle d'endroit pour une rencontre avec le premier président noir de ce pays. Cela s'appelle Orania et c'est une sorte de ghetto volontaire créé par les blancs les plus réfractaires à une société multiraciale. Il y a là quelques dizaines de familles et Nelson Mandela est venu y prendre le goûter pour montrer qu'il voulait pardonner ce qu'il appelle les crimes des régimes précédents contre son peuple. À Johannesburg, Andy Sez.
L'hélicoptère présidentiel s'est posé sans encombre à Orania, une ferme située sur les bords du fleuve Orange, où vivent comme dans un camp retranché 200 familles environ, toutes blanches, et de la même manière que du temps de l'apartheid. Nelson Mandela aura donc été le premier homme noir à pénétrer à Orania, en tout cas avec les honneurs d'un visiteur. Bettina Verwoerd, une vieille femme de 94 ans et veuve d'un des fondateurs les plus radicaux de l'apartheid, a pris une tasse de thé avec le président et tous les deux se sont recueillis devant le monument érigé à la mémoire de son mari. Ce qui n'a pas du tout, à l'en croire, embarrassé Nelson Mandela, alors que Verwoerd est certainement un des hommes les plus détestés de la communauté noire. Le président sud-africain multiplie les gestes hautement symboliques qui tous démontrent sa volonté de réconciliation. Néanmoins, et c'est le cas pour cette visite à Orania, de telles initiatives de Nelson Mandela ne sont pas bien comprises. Ni par son électorat, dans les townships, on commence à trouver que le président se préoccupe un peu trop des états d'âme des anciens oppresseurs. Et dans la communauté blanche, on ne se retient pas de persifler sur son statut de président provisoire, pour reprendre leur terme.
Mandela multiplie en effet les opérations de charme en direction de la communauté blanche qu'il faut absolument rassurer. Nelson Mandela.
Il s'agit d'une volonté réaliste de faire fi du passé et de construire l'avenir de notre pays.
Zelda Lagrange, sa secrétaire.
Well, I accepted a very junior position in his office in
1994, j'ai accepté un poste complètement au bas de l'échelle dans son cabinet. J'ai postulé pour un poste de dactylographe ministériel et j'ai été embauchée. Nous n'étions que 5 à travailler pour lui à l'époque et j'étais la plus jeune. 2 semaines après avoir pris mon poste, je le rencontre pour la première fois. C'était par hasard. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Il m'a tendu la main, puis l'a serrée, et m'a parlé dans ma langue natale, en afrikaans. Et je me retrouvais complètement sans défense face à lui. J'étais intimidée et je fus très surprise de le voir si gentil et attentionné avec moi dès notre première rencontre.
2 mois seulement après son investiture, Nelson Mandela va connaître sa première alerte. Une vague de grève qui touche différents secteurs de l'économie sud-africaine. Il faut dire qu'il a battu campagne sur le thème de l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle s'impatiente. Les réformes ne vont pas aussi vite qu'elle l'espérait. Il invite la population à la patience. Il va les inviter à serrer la ceinture. Et pour prouver qu'il y est sensible, il procède à une baisse de 20% de son salaire présidentiel dans le cadre des mesures destinées à dégager des fonds pour la reconstruction du pays. Et puis il y a la hausse vertigineuse de la criminalité. Un autre problème, Frédéric de Clercq.
Monsieur Mandela n'a jamais été un président impliqué dans les affaires courantes. Dès le départ, il ne s'est pas immiscé dans les discussions et les décisions qui étaient prises au quotidien. Il se comportait davantage en président de cérémonie, en bâtisseur d'une nation, tâchant d'être un facteur d'unification.
Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela.
Absolument. Au début, les 2 premières années, il me semble, il s'est concentré sur la gestion du pays et la transformation du gouvernement. Redonner confiance aux gens qui l'entouraient pour qu'ils puissent, à leur tour, s'épanouir dans leurs différents domaines d'expertise. À partir de 1995, comme vous le savez, son objectif premier était la réconciliation. En 1996 ou en 1997, je ne me souviens plus exactement quand, il a annoncé publiquement qu'il allait passer le pouvoir et la direction du pays au vice-président Thabo Mbeki. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est alors entièrement consacré à aider l'Afrique du Sud à panser ses plaies, à guérir et à construire sans cesse des liens entre les communautés.
Nelson Mandela va profiter d'une autre occasion pour sceller un peu plus cette union, pour asseoir un peu plus son idée de l'Afrique du Sud à Kansiel. La Coupe du Monde de rugby qui se joue cette année-là en Afrique du Sud. C'est la première participation de son pays à une Coupe du Monde. 3 ans seulement après le retour en compétition officielle. Le rugby est pourtant loin d'être le sport préféré de la majorité des Noirs. Elle n'est pratiquée que par les Blancs. Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela.
Il
faut aussi que vous gardiez à l'esprit quelque chose qui n'a été publiquement révélé qu'après 1994, c'est que les Noirs vivant à l'est du Cap jouaient au rugby. Les Kusakusa jouaient au rugby longtemps avant que les Afrikaners se n'y jouent. Seulement, ils n'avaient pas le droit de participer aux tournois et jouer dans les stades à cause de l'apartheid. Ils s'y connaissaient donc beaucoup mieux en rugby que les Blancs. Et à l'époque, le rugby était plus qu'un sport, c'était une religion qui attisait énormément de passion dans tout le pays. Et Mandela a compris qu'en utilisant ce sport, il pourrait réconcilier le pays. Il pourrait construire un lien entre les deux communautés. C'était sa vision, et c'était ce qui faisait la grandeur de Mandela.
Morné Duplessis, le capitaine des Springboks, la formation nationale sud-africaine.
Mandela disait « Vous allez finir par vous tuer ». Ces gens vont vous punir jusqu'à ce que vous vous effondriez et vous n'aurez rien gagné, alors qu'on peut tirer parti de cette situation.
Nelson Mandela va faire une apparition très remarquée dans le stade à cette finale. Il est vêtu du maillot vert des Springboks avec le numéro 6. Il vient encourager l'équipe nationale. C'est la surprise dans un stade de blanc. Nelson scande l'ensemble des supporters dans le stade. Et ce match, a priori en faveur de la Nouvelle-Zélande, se solde donc par la victoire de l'Afrique du Sud au dernier moment. Mandela, vêtu de son maillot, remet le trophée dans une ambiance de délire qui rapproche plus que jamais le peuple sud-africain. Cette fois-ci, c'est le pays tout entier, sans distinction de couleur, qui célèbre l'événement. L'archevêque Desmond Tutu.
C'était un moment clé dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir ou organiser. C'était incroyable. Qui aurait pu imaginer qu'à Soweto, les gens danseraient pour fêter cette victoire? Ce match a provoqué un renversement dans le pays. Il a montré qu'il était possible de devenir une nation. L'icône de la réconciliation et du pardon unifiait un pays dont chacun disait « Oh, ça n'a pas explosé aux élections ?» Le pays n'a pas sombré dans les flammes? Laissez-leur 6 mois et le pays sera en ruine. Des années plus tard, nous sommes encore là. Je suis persuadé que sans lui, il aurait été impossible de tenir ensemble ces éléments disparates qui partaient dans tous les sens. Et cela, pour moi, constitue son legs le plus précieux.
Si Mandela est sur tous les terrains, dans le même temps, en privé, ce n'est pas vraiment le bonheur. Mandela est seul, très seul. Les relations avec ses enfants sont particulièrement difficiles.
Oui, c'était difficile au départ, pour être tout à fait honnête avec vous. Vous pouviez voir qu'il y avait encore énormément de blessures à peine cicatrisées. Imaginez que votre père vous ait été enlevé pendant 27 ans, que vous ayez eu à grandir sans lui. C'était très difficile pour la famille de se réconcilier, du moins pendant la période que j'ai pu observer. Aussi, il s'agissait de 3 familles différentes, de par ses 2 précédents mariages. De fait, c'était une situation compliquée. Dans n'importe quel cas où il y a 3 épouses, il y a des complications. 3 familles auxquelles vous ajoutez la complexité liée au statut de Nelson Mandela, ça va forcément être difficile.
Après une descente des services de fraude chez Winnie, soupçonné de trafic de diamants et d'escroquerie, Mandela, qui a fait de la transparence son cheval de bataille, est contraint de révoquer son épouse pour avoir passé outre les obligations des membres du Conseil des ministres. Pour le chef de l'État, le départ de Winnie s'impose. Il avait promis qu'il se montrerait impitoyable envers tout ministre ou responsable politique qui confondrait la gestion de l'État avec ses intérêts privés. La vice-ministre de la Culture est révoquée. Mais ceci n'est qu'un nouvel acte dans cette vie familiale tumultueuse, comme nous allons le voir. En politique aussi, les mois qui vont suivre vont être déterminants pour la suite de la vie politique de Nelson Mandela. On en parle dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Nelson Mandela. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI.
Bonjour.
Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Depuis des années, les Sud-Africains espéraient ce jour. Dire que cette visite était attendue depuis longtemps, c'est rendre hommage à votre propre dégoût de l'apartheid. Vous avez retardé votre visite dans ce pays car vous considériez avec mépris un système qui traitait les enfants de Dieu comme moins que des êtres humains.
En ce mois de septembre 1995, le pape Jean-Paul II effectue son premier voyage en Afrique du Sud post-apartheid. C'est la fin du boycott qu'il s'était imposé puisque désormais, le régime a changé et le pays est dirigé par l'icône de la lutte pour la liberté qui l'accueille. Une icône qui séduit, qui attire toutes les personnalités du monde entier dans cette nation qui reprend des couleurs. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Nelson Mandela. Mandela président séduit la planète entière. Il est l'invité de tous les grands de ce monde. Tous le convient ou viennent le voir. Chef d'État comme tête couronnée. Il a en réalité décidé de faire de ce mandat celui qui va conforter son pays dans une nouvelle ère démocratique en même temps. Il s'agit aussi pour lui de le positionner à nouveau sur la scène internationale. Il œuvre également pour la paix et le dialogue un peu partout. Il est le médiateur au Zaïre de Mobutu qui fait face à une rébellion partie de l'Est du pays, celle de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui va réunir les deux protagonistes sur le navire de guerre sud-africain Outenika à Pointe-Noire au Congo. Cette rencontre ne sera pas un succès. Mais Nelson Mandela œuvre également pour la paix en Angola, en Indonésie et même en Irlande. Il est sur tous les fronts. Il va même se rendre aux États-Unis pour apporter son soutien au président Bill Clinton qui est confronté à la terrible procédure d'impeachment dans l'affaire Monica Lewinsky qui a failli lui coûter son fauteuil. Mais s'il est pour le dialogue, cela ne l'empêche pas d'exprimer une opinion différente qui parfois dérange. Ainsi, il va être le premier à briser l'isolement dans lequel la communauté internationale a confiné le guide libyen Muammar Kadhafi. Il va s'y rendre en brisant l'embargo international. C'est lui qui fera pression sur le chef de la Diamahiria pour qu'il accepte de livrer les responsables et d'indemniser les victimes de l'attentat de Lockerbie. Zelda Lagrange, sa secrétaire.
Il s'est rapproché de Kadhafi parce qu'il pensait pouvoir utiliser son pouvoir et son amitié avec Kadhafi pour le convaincre de lui remettre les responsables de l'attentat de Lockerbie, ce qu'il a fini par faire. Mais il fallait pour cela quelqu'un qui pouvait réellement comprendre Kadhafi et lui faire preuve de respect, même si c'est pour servir ses propres intérêts.
Bill Clinton poursuit sa tournée africaine et aujourd'hui il était en Afrique du Sud, reçu à bras ouverts par Nelson Mandela qui a déclaré le tenir en haute estime, mais qui ne lui a pas épargné l'humiliation, car en pleine conférence de presse commune, Mandela a rendu hommage à trois de ses meilleurs amis, Kadhafi, le Libyen, Castro, le Cubain et Rafsanjani, l'Iranien. Bill Clinton a très moyennement apprécié. Sur place, Farida Ayari.
Nelson Mandela et Bill Clinton ont eu un entretien d'une heure et 45 minutes concentré sur deux sujets essentiels, la création d'une force interafricaine pour la prévention des conflits et la nouvelle loi américaine pour le commerce avec l'Afrique qui reste à être adoptée par le Sénat. Dans les deux cas, le président sud-africain a marqué sa différence. Au cours de la conférence de presse, Nelson Mandela a affirmé qu'il n'accepterait jamais que ses troupes soient commandées par une force extra-africaine. L'Afrique du Sud souhaite en effet que cette force voie le jour sous le parapluie de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité Africaine. L'ancien bagnard de Robben Island a même fait une leçon de morale au chef de l'exécutif de la première puissance mondiale en lui conseillant de dialoguer avec ses ennemis au lieu de chercher la confrontation.
C'est dans la chambre à coucher qu'un homme et une femme évoquent les choses les plus intimes. Il y en avait tant dont j'aurais voulu lui parler, mais elle n'était jamais disposée à m'écouter. J'ai été l'homme le plus esselé qui soit à ses côtés. Ces mots sont ceux de Nelson Mandela, qui malgré sa pudeur est obligé de révéler sa propre souffrance devant la Cour suprême. Quelque temps plus tôt, il a été obligé de la sortir de son gouvernement parce qu'elle avait été mise en cause dans une sombre affaire de trafic de diamants. Mais c'était un peu ignorer la pugnacité de son épouse. 3 mois après cette démission, elle va obtenir de la justice d'être réintégrée à son poste de vice-ministre de la Culture. Mais c'est un retour provisoire, puisqu'elle se trouve à nouveau démissionnée suite à une autre série de révélations dévastatrices pour sa réputation. La justice sud-africaine va la reconnaître coupable d'une 50aine de fraudes et vols commis avec la complicité d'un de ses frères. Mais Winnie reste très populaire auprès de la base de l'ANC. Elle est la mère de la nation sud-africaine.
Libéré de prison par Frédéric de Klerk en 1990, le président sud-africain Nelson Mandela sera libéré de sa femme demain. La procédure de divorce entre Nelson et Winnie Mandela est quasiment terminée. Ce seront 38 ans de mariage qui vont prendre fin devant la Cour suprême de Johannesburg. À 77 ans, le président Mandela, fringant, n'a pas l'air accablé de voir partir son ex. En revanche, Winnie Mandela ne lui fait aucun cadeau et réclame la moitié de ses biens. Malgré son caractère, ses frasques, ses démêlés avec la justice, Winnie Mandela est resté très populaire en Afrique du Sud. On lui pète même, Rafinto, l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 1999.
Un peu exagéré tout de même, mais c'est la fin d'une histoire, plus discrètement le début d'une autre. Puisque Nelson Mandela rencontre secrètement au Mozambique une autre femme, une autre ex-première dame, grâce à Machel, Jessie Duarte, l'assistante de Nelson Mandela.
You could see that Madiba was absolutely,
on voyait bien que Madiba était sous le charme de Grassa.
He said to me that she's got such a
Il m'a confié
smile.
Qu'elle avait un merveilleux sourire. Et je me suis dit, mon patron est amoureux.
Nelson Mandela et Grassa Machel vont finalement se marier en juillet 1998.
Le chef de l'État le plus populaire sans doute au monde a fêté aujourd'hui ses 80 ans. Pour l'occasion, Nelson Mandela s'est offert un cadeau, un troisième mariage. Il y avait eu Evelyn en 1944, elle trouvait qu'il consacrait trop de temps à la politique. Winnie en 1958, en ce jour anniversaire, il a dit oui à Grassa. Philippe Brachet.
C'est dans la plus stricte intimité, chez eux, au cœur d'une des banlieues les plus huppées de Johannesburg, que Nelson Mandela et Grassa Machel se sont unis cet après-midi. La cérémonie religieuse s'est déroulée dans une pièce où seuls leurs enfants avaient été acceptés, et à sa sortie, le couple présidentiel, main dans la main, a entonné un chant rituel de mariage sous l'œil attendri des rares invités qui, pour parfaire ce tableau idyllique, ont bien sûr inondé de fleurs les heureux époux. Grassa Machel, vêtue d'une robe traditionnelle africaine, a embrassé son mari. C'était pour la première fois, avouera-t-il, plus tard. Voilà pour la photo. Pour l'histoire, eh bien, on retiendra que c'est le troisième mariage de Nelson Mandela et le deuxième pour Grassa Machel, veuve de l'ancien président mozambicain Samora Machel. Nelson et Grassa se sont rencontrés en 90, mais leur romance n'a pris un caractère officiel qu'en 96, aux grandes dames des esprits bien-pensants qui reprochaient à Nelson Mandela de ne pas offrir le bon exemple à la jeunesse sud-africaine. Le président ne cachait d'ailleurs pas sa volonté de régulariser la situation, mais son aimée se montrait plus réticente. La première dame du pays, aujourd'hui âgée de 52 ans, a finalement cédé, offrant certainement à Madiba son plus beau cadeau d'anniversaire.
Mai 1996, le Parlement adopte une nouvelle constitution libérale considérée comme l'un des manifestes des droits civiques les plus progressistes qui soient. Le lendemain, Frédéric de Klerk, en colère, quitte le gouvernement avec les membres de son parti. L'ANC a maintenant entièrement la main pour façonner le pays à sa manière. Zelda Lagrange, la secrétaire du président.
Je pense et suis convaincue que l'Afrique du Sud a eu le président qu'il lui fallait, au moment où il le lui fallait. Et je pense aussi que le président Mbeki était la bonne personne pour prendre sa succession, car économiquement, il fallait construire et assurer un futur stable pour l'Afrique du Sud.
Nelson Mandela se retire progressivement de la gestion des affaires courantes. C'est dans la main à Thabo Mbeki, son dauphin.
Je voudrais vous confier que beaucoup de mes collègues ont plus de capacités que moi. Je suis plus ou moins une décoration, comme l'a dit l'archevêque Desmond Tutu. Il y a des gens plus jeunes qui font un solide travail de conduite à la fois de l'organisation et du gouvernement. Je ne m'inquiète absolument pas. Cette organisation deviendra encore plus forte si un homme comme moi, qui a maintenant 78 ans, disparaît de la scène.
Mark Maharaj, ministre des Transports dans le gouvernement de Mandela, ancien prisonnier de Robben Island.
Mandela had decided that he was from the beginning going to be president for one term of 5 years.
Mandela avait décidé dès le départ qu'il ne serait président que pour un seul mandat de 5 ans. Il était à la tête d'un collectif de l'ANC. Il avait sélectionné Thabo Mbeki comme vice-président. Et de fait, pendant ces 5 années passées au pouvoir, il donnait peu à peu plus de responsabilités à Thabo Mbeki pour que, le jour où il démissionnerait de sa fonction, la transition se fasse facilement.
Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela.
Il existe plusieurs documents de cette conversation au sein de l'ANC, car M. Mandela croyait aussi que Cyril Ramaphosa, notre vice-président actuel, serait un très bon président et il a défendu sa candidature. Mais au sein de la structure de l'ANC, comme j'ai dit, c'est le parti qui finissait par prendre une décision collective. Ce n'était pas seulement Mandela qui décidait, mais bien le collectif tout entier, et il a très bien accepté la décision finale.
L'heure de passer le témoin a sonné, a affirmé Mandela. L'heure a sonné pour une nouvelle génération qui, en dépit de nos erreurs, saura défendre la cause de la liberté. Nelson Mandela a rendu un long hommage aux disparus de la lutte de libération et aux vétérans du mouvement, déclarant à la nouvelle direction « C'est en leur nom que nous vous remettons les rênes du mouvement, protégez et préservez ce précieux héritage, défendez son unité et son intégrité comme disciple engagé sur la voie du changement. » Nelson Mandela a enfin exprimé sa satisfaction de pouvoir s'occuper de ses nombreux petits-enfants et de tous les enfants d'Afrique du Sud et a conclu « J'attends le moment où, réveillé par le soleil, je pourrai me promener en toute tranquillité » sur les collines de Kounou, son village natal du Transkei.
Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela.
Jusqu'à ce jour, les gens me disent, si seulement il avait pu faire un autre mandat présidentiel de 5 ans, le pays aurait été encore plus fort. Mais lui était convaincu, au plus profond de lui-même, que ça n'aurait pas été le cas. Il était convaincu qu'il était temps de laisser la place à des jeunes qui prendraient le pays en main.
Si cela pouvait servir d'exemple à certains des nombreux hommes providentiels africains qui s'accrochent mordicus à leur fauteuil, faisant parfois basculer leur pays dans le chaos. Enfin, Nelson Mandela va mener campagne pour son successeur.
L'Afrique du Sud tourne la page de l'ère Nelson Mandela. 18 millions d'électeurs votent depuis ce matin pour désigner les 400 députés qui choisiront à leur tour le nouveau président de la République. À vrai dire, dans les faits, la page est déjà tournée. Tous les sondages prévoient la victoire de l'ANC, le parti fondé par Nelson Mandela, et la victoire de son président Thabo Mbeki, qui exerce la réalité du pouvoir dans l'ombre de Mandela depuis des mois.
Nelson Mandela, malgré les sollicitations, va finalement se retirer après la victoire de l'ANC. Zelda Lagrange, sa secrétaire.
Il était plus occupé après son mandat présidentiel que pendant, parce que le monde entier pouvait voir qu'il avait quitté son poste de président et avait tout le temps pour se consacrer à ce que tout le monde lui demandait. Il était sans cesse sous pression pendant les années qui ont suivi son départ à la retraite. Il avait aussi des projets en tête. Il voulait jouer un rôle dans la gestion de la crise du sida à l'époque. Il voulait se rendre dans les écoles et les cliniques en milieu rural, dans tout le pays, convaincu qu'il pouvait utiliser ses contacts professionnels pour aider le gouvernement à gérer l'épidémie et atteindre les écoles et cliniques bien plus rapidement que ce que le gouvernement était capable de faire à ce stade. Il avait ses projets et le reste du monde avait des attentes envers lui. Et je voulais l'aider à tout faire. Mais parce qu'il était comme ça de nature, il disait oui à tout et voulait faire plaisir à tout le monde, ce qui était très difficile à gérer.
Effectivement, Nelson Mandela va faire l'objet de nombreuses sollicitations maintenant qu'il n'est plus aux affaires. Elle est obligée de le protéger contre toutes ses demandes, surtout que sa santé décline. Mais il n'est pas prêt de jouir de la retraite dont il rêve. En plus, les célébrités qui veulent le rencontrer, faire une photo avec lui, ou des chefs d'État qui viennent avec leurs femmes, rien que pour une vidéo, Mandela est obligé d'apporter son soutien jusqu'au bout à l'ANC, dont le nouveau candidat est Jacob Zuma.
Non, les Bafana Bafana ne viennent pas de marquer un but, ce sont des supporters de l'ANC euphoriques qui attendent Jacob Zuma. Et quand les 60 000 personnes dans les gradins ont vu arriver le dirigeant Zoulou en petite voiture de golf avec Nelson Mandela, c'était tout simplement l'hystérie. Après un tour de piste qui a enflammé la foule, Mandela, très diminué, a pris place avec Zuma sur la scène, dressé au milieu du terrain de foot, une belle photo de famille qui colle bien à l'un des slogans du Parti de Libération, l'ANC est ma maison, c'est l'ANC.
Premier septembre 2013, Nelson Mandela, dont certains ont annoncé la mort, sort d'hôpital après 3 mois. Mais c'est pour être soigné dans sa maison d'Oakton, à Johannesburg. La planète entière vit désormais au rythme des rumeurs sur sa santé. Est-il ou non mort? Est-il conscient? Faut-il ou non le débrancher? Les communiqués de presse quotidiens transforment encore une fois sa vie personnelle en feuilleton. Avec la sourde bataille familiale qui a déjà commencé. Avec des fans installés devant sa résidence. Le 5 décembre 2013, le président Jacob Zuma annonce le décès de Nelson Mandela. Il avait 95 ans. Marc Maharaj, porte-parole de Nelson Mandela à cette période.
Il recevait un traitement, mais nous nous sommes salués. Il m'a reconnu et nous avons discuté un instant. Que ce soit clair, les rumeurs selon lesquelles il était maintenu en vie alors qu'il était déjà mort étaient fausses.
Nelson Mandela est mort et l'heure est au bilan. Christo Brandt, son gardien de prison.
Il n'était pas le genre de personne qui devient difficile une fois au pouvoir. Il était toujours reconnaissant envers les gens qui l'entouraient. Il me faisait toujours sentir que j'étais une personne d'importance dans son entourage. Et à plusieurs reprises, il mettait sa main sur mon épaule et me disait que j'étais son meilleur ami. Il n'a jamais changé. C'était le même homme, le jour où il a été incarcéré et le jour de sa libération.
Marc Maharaj.
Mandela fait partie d'un petit groupe de personnes, de leaders, qui ont joué un rôle historique, crucial dans la lutte contre la suprématie de la minorité blanche et dans la transformation démocratique du pays. Le travail n'est pas terminé. Notre peuple n'est pas encore complètement libre, car il reste des personnes sans terre, sans emploi et vivant dans la pauvreté. Il nous a emmenés vers la démocratie, il nous a montré et a mené vers le processus de réconciliation pour que les Sud-Africains, quelle que soit leur couleur de peau, puissent vivre ensemble, en paix et en harmonie. Pour cela, il est devenu le père fondateur de l'Afrique du Sud.
Zelda Lagrange, la secrétaire de Nelson Mandela.
Pour moi, Nelson Mandela représentait le respect de soi, avant tout, et le respect de tous, même de son ennemi. Et dans son rapport avec les gens, il était toujours dans le respect des différences. C'était dans sa nature, au cœur de sa personnalité. Je l'ai vu se lever tous les jours pendant 19 ans avec la volonté de changer le monde, avec la conviction absolue qu'une action par jour pouvait améliorer les choses et rendre le monde meilleur, même si ce n'était que pour une seule personne. C'était l'effet boule de neige, et je peux en témoigner, je l'ai vu de mes yeux. Si je vous viens en aide, vous viendrez en aide à quelqu'un d'autre. Je l'ai vu mettre cette philosophie en pratique et j'ai vu l'impact que ça a eu sur le monde. En bref, je ne peux que témoigner de ce que j'ai vu, de ce que je l'ai vu faire.
C'est sur ces différents bilans qu'on pourrait étendre à des milliers de personnes que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à l'un des plus grands personnages de notre temps. Nelson Mandela, dont l'histoire pourrait encore être racontée sur plusieurs semaines. Il est certainement l'un des leaders africains sur lequel on aura beaucoup, beaucoup écrit. Je voudrais remercier les différents acteurs de son histoire qui ont bien voulu apporter leur témoignage dans ce magazine. George Bizos, son avocat, Ahmed Katrada, Marc Maharaj, Thabo Mbeki, Cyril Ramaphosa, ses compagnons de lutte, le président Frédéric de Klerk, Zelda Lagrange, sa secrétaire, et Christo Brandt, son gardien de prison. Je remercie également Winnie Mandela qui nous a reçus, même si elle n'a pas souhaité s'exprimer. Je voudrais également remercier ceux qui ont prêté leur voix à ces différentes personnalités et l'aide de la traduction réalisée par Pierre Delrieux. Olivier Raoul, Éléonore Krenik et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur votre mobile avec notre application Archives d'Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play ou sur iTunes. À très vite.